Cousins et cousines, chapitre 3. Retenez l'Américain. Miss Searle s'empressa d'obéir à l'injonction que son frère lui transmettait dans un télégramme dont le laconisme n'avait rien de courtois. Elle engagea vivement mon compagnon à rester et s'éloigna pour donner des ordres. « Comment a-t-il su que j'étais ici ?» me demanda Searle. « Son avoué l'a sans doute prévenu, » répliquai-je. Simmons, pour des motifs à lui connus, aura parlé à l'homme de loi de votre projet de visite. Et M. Searle se sera figuré que vous vous êtes formellement présenté à sa sœur en qualité de cousin. Ses instincts hospitaliers l'ont emporté, et il désire que vous soyez bien reçu. Au fond, je soupçonne qu'il représente le phénix des usurpateurs, que sa conscience a été touchée par les explications des légistes, et qu'il reconnaîtra vos droits partiels. Je m'y perds, dit mon ami d'un ton rêveur. À ce moment, Miss Searle vint nous rejoindre. Il est bien entendu, dit-elle en se tournant vers moi, que vous vous trouvez compris dans l'invitation de mon frère. Votre chambre sera bientôt prête. Il s'agit d'envoyer chercher vos bagages. Il fut convenu qu'une voiture me conduirait à notre petite auberge et que je reviendrais à temps pour rencontrer Sir Richard Searle à dîner. À mon retour, quelques heures plus tard, un valet de pied me mena immédiatement à ma chambre et m'indiqua qu'elle communiquait par un long couloir avec celle de mon ami. Je me dirigeai aussitôt de ce côté et je frappai à la porte que l'on m'avait désignée. Ne recevant pas de réponse, j'entrai. Étendu dans un fauteuil, près de la croisée ouverte, l'hôte de la Belle au bois dormant sommeillait à son tour. Ce fut un grand soulagement pour moi de le voir se reposer ainsi après ses rhapsodies. Sa pâleur avait diminué. Il avait déjà l'air moins abattu. Je le contemplai une minute ou deux avant de me résoudre à lui rappeler l'heure. Enfin, je posai la main sur son bras et je le secouai doucement. Il ouvrit les yeux, puis les referma. « Laissez-moi rêver, » dit-il. « À quoi donc rêvez-vous ? » ?»« À une femme en robe noire, avec des cheveux d'or. » »« Il vaut mieux la voir que de rêver à elle. Debout et habillez-vous. Elle nous attend pour dîner. »« Dîner, dîner, » répéta-t-il en rouvrant peu à peu les yeux. « Je crois vraiment que je pourrais dîner. » « Bravo, » dis-je, tandis qu'il se levait. « Je commence à croire, moi, que vous enterrerez M. Simmons. » Il me raconta qu'il avait passé presque tout le temps de mon absence avec Miss Searle à parcourir les jardins et les serres. « Vous voilà déjà amis intimes, » dis-je en souriant. « Comme si nous nous connaissions depuis des siècles. » Il n'avait quitté son hôtesse qu'une heure auparavant, lorsqu'on était venu annoncer, à ce qu'il croyait, l'arrivée du maître de la maison. Le crépuscule éclairait encore le grand salon lorsque nous y pénétrâmes. La femme de charge nous avait dit que l'on occupait rarement cette salle, dont on semblait ouvrir les portes en l'honneur de mon ami. À l'extrémité de la chambre, s'élevait une vaste cheminée en marbre blanc, jaunie par l'âge et presque aussi haute que les tombes princières des cathédrales anglaises. En face du foyer, les mains derrière le dos, se tenait un petit homme d'un aspect assez chétif, et près de lui Miss Searle, tellement transformée par sa toilette que je ne la reconnus pas tout d'abord. Notre entrée et notre réception se firent avec beaucoup de froideur et de cérémonie. Nous traversâmes en silence la longue salle. Enfin, Sir Richard vint avec lenteur à notre rencontre. Sa sœur demeura immobile. Je voyais qu'elle se servait d'un large éventail d'ivoire pour se cacher le visage, bien que ses grands yeux bleus, attristés, suivissent avec une attention marquée ce qui se passait. Le propriétaire de Locksley Park accepta la main qu'on lui tendait en réprimant, je crois, un geste de surprise causé par la ressemblance dont Miss Searle lui avait sans doute parlé. « Ce jour est un heureux jour, » dit-il. Et il ajouta aussitôt en se tournant vers moi, « L'ami de mon cousin est mon ami. » Il ne ressemblait en rien à sa sœur. À première vue, j'avais été frappé de sa maigreur et de l'exiguïté de sa taille. Bientôt, je fus plus frappé encore de l'éclat de ses cheveux et de sa barbe rouge qui formait autour de son visage une sorte d'auréole. De loin, sa physionomie paraissait jeune et ouverte. Mais de plus près, on distinguait une multitude de petites rides entrecroisées qui lui donnaient un aspect vieillot et rusé. Il avait l'air d'un homme de 60 ans. Son nez, d'un dessin classique, semblait moulé sur celui de son cousin. Figurez-vous cette physionomie éclairée par des yeux d'une grande vivacité et animée par un sourire impérieux qui disait clairement « J'ai seul le droit de commander ici. » Durant les 5 minutes qui précédèrent l'annonce du dîner, mon ami se tint sur la défensive. Je reconnus sans peine que notre hôte ne lui était pas plus sympathique qu'à moi. À en juger par son attitude, Miss Searle devinait cet antagonisme moral. Un changement notable s'était opéré en elle depuis le matin. L'air de surprise avec lequel son cousin la contempla n'indiquait même pas que le changement datait de l'arrivée du frère. Elle cherchait à se remettre d'une grande émotion. Elle était pâle et l'on voyait qu'elle avait pleuré. Soit qu'elle eût appelé la coquetterie à son aide, soit que le hasard l'eût servi, elle portait une toilette qui lui seyait à ravir. Je ne me charge pas de décrire ce mélange de crêpes et de soie verte, laissant aux lectrices le soin de s'imaginer un costume d'un bon goût irréprochable. Un fichu de riche dentelle couvrait, sans les cacher, les blanches épaules de la châtelaine, et autour de son cou s'enroulaient plusieurs rangées de perles fines. Je lui offris le bras pour gagner la salle à manger, où les deux cousins nous suivirent. Dès le début du repas, l'idée me vint que j'assistais à un drame où chacun des 3 personnages remplissait un rôle assez difficile. Toutefois, celui de mon compagnon me paraissait le plus lourd, et je souhaitais qu'il s'en tirât à son honneur. Si incapable qu'il fût d'un grand effort de volonté, il mettait évidemment toutes ses facultés en jeu pour plaire au maître de la maison. Avec Miss Searle, crédule, passive et compatissante, il s'était montré tel qu'il était. Mais avec notre hôte, il fallait avant tout respecter les convenances. Il avait affaire à un conservateur auquel toute espèce d'originalité devait déplaire. Pendant 1 heure, il ne se distingua nullement et fit preuve d'une amabilité des plus banales. Je ne sais quel genre de personnage M. Richard Searle comptait rencontrer. Malgré son urbanité, il ne put cacher une nuance de dépit en voyant que l'Américain semblait à son aise dans un salon et ne posait pas les pieds sur la table. Il n'était pas homme à montrer son jeu. Néanmoins, je me figure qu'il avait espéré trouver chez lui un Yankee mal élevé. La politesse le poussa naturellement à choisir pour sujet de conversation l'Amérique, dont il parla un peu comme d'une planète fabuleuse située en dehors de l'orbite britannique. « Je me rappelle vaguement, très vaguement, dit-il, avoir entendu raconter que je possédais là-bas des parents. J'ai regardé la chose comme un mythe. L'idée de m'expatrier ne me serait jamais venue, et je m'étonne que des gens de ma famille l'aient eu. Pourtant, vous le savez, un grand-oncle à moi, celui dont Sir Joshua Reynolds a peint le portrait, a voulu voir les États-Unis. Mais il est mort en route. Vous lui ressemblez assez pour faire croire qu'il est arrivé à bon port et qu'il a vécu jusqu'à ce jour. Dans ce cas, vous auriez eu grand tort de reparaître ici, car il a laissé une mauvaise réputation. On parle d'un fantôme qui vient sangloter de temps en temps autour de la maison. Le fantôme d'une de ses victimes, une femme séduite, puis abandonnée à son malheureux sort. « Oh, frère !» s'écria Miss Searle. « Vous n'y croyez pas, naturellement, » dit le frère. « Vous dormez trop bien pour entendre sangloter qui que ce soit. Je tiens mon fantôme comme je voudrais l'entendre, » dit mon compagnon, dont les yeux brillèrent. « Pourquoi ces sanglots ? Je vous en prie, racontez-nous la merveilleuse histoire. » Sir Richard le contempla d'un air étonné, se recueillit un instant comme pour rappeler ses souvenirs, ou comme un improvisateur à la recherche d'un sujet, puis commença, après avoir tambouriné sur la table un prélude exécuté par les cinq doigts de sa main gauche. Je ne répéterai pas son récit, bien qu'il sût le rendre très intéressant. Il s'agissait d'une jeune paysanne séduite qui, chassée d'abord par son père, puis par les parents du séducteur, était morte dans Locksley Park au milieu d'une tempête de neige. « Pauvre fille, » dit Miss Searle, « chaque fois que le vent mugira, je me figurerai que c'est elle qui se lamente. « Oh, vous, ma cousine, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes trop bonne pour que personne songe jamais à s'en prendre à vous. Moi, c'est autre chose. Songez donc, je serais fâché de ressembler en tout à mon infidèle homonyme, mais je lui ressemble physiquement. Si la délaissée allait s'y tromper, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire pour la consoler, car je ne suis moi-même qu'un fantôme. » Son hôte le regarda d'un air intrigué et dit en souriant, « Ma foi, on le croirait presque. Mon frère, mon cousin, voilà d'horribles plaisanteries !» s'écria Miss Searle. Si horribles qu'elles fussent, elles possédaient évidemment un attrait pour mon ami, dont l'imagination, engourdie par le froid contact de son hôte, commençait à se réveiller. Il se mit à voyager dans le pays du bleu, comme s'il eût passé son existence dans la société d'Ariel et de Titania. Il cessa de se contenir et donna un libre cours à ses idées fantasques. Il semblait s'inspirer de la poésie sauvage des sites environnants. L'enthousiasme avec lequel il parla de l'antique manoir aurait dû ravir le propriétaire, qui pourtant ne se montra guère flatté. Quel dommage que la vieillesse n'embellisse que les monuments, dit-il enfin en tombant dans la prose après un de ses accès de lyrisme. C'est qu'aussi il se laisse doucement caresser par elle, tandis que son approche nous révolte et notre résistance la rend cruelle. Ce matin, en me coiffant, j'ai trouvé un cheveu blanc, dit Miss Searle. Déjà, j'espère que vous l'avez respecté. Je l'ai regardé très longtemps, sans trop me révolter. répliqua la cousine en riant. « Pendant bien des années encore, dis-je à mon tour, Miss Searle pourra se moquer des cheveux blancs. Dans 10 ans, j'aurai 40 ans. C'est mon âge, dit Searle. Ah, si j'étais venu ici il y a 10 ans, j'aurais eu plus de temps pour jouir du festin. Mais je me serais senti moins d'appétit au lieu d'arriver affamé. Pourquoi donc attendre jusqu'à ce que vous fussiez affamé ? Demanda Sir Richard. Pure sottise de ma part, mon cher monsieur. Je me figurais qu'il fallait être très riche pour voyager, et j'avais de bonne heure jeté mon argent par les fenêtres. Enfin, quand je suis parti, mes poches étaient presque vides. Le maître de Locksley Park toussa. Alors, vos ressources sont limitées ? Demanda-t-il avec une certaine hésitation. Limitées, répéta mon ami en saluant. Vous êtes vraiment trop poli envers elle. Notre hôte poussa une petite exclamation qui ressemblait à un grognement. Jamais il n'avait entendu un pareil aveu exprimé avec une telle légèreté. On voyait qu'il ne savait trop s'il devait rire ou se formaliser. Après avoir vidé son verre, il me lança un regard interrogateur que le coupable saisit au passage. « Oh, quant à lui, dit-il, ses ressources sont illimitées. Il pourrait acheter Locksley Park. » Je crois qu'il avait bu un peu trop de vin de Porto. Son œil fiévreux et le ton de sa voix m'avertirent que toute observation de ma part aurait pour résultat de l'irriter ou de l'exciter. Comme nous nous levions de table, il se pencha vers moi et me dit à voix basse. « C'est la nuit fatale, la nuit de la destinée. » Les grands appartements du rez-de-chaussée avaient été éclairés en notre honneur. Il gagnait, affirma notre hôte, à être vu à la clarté des lampes et des bougies. Pour ma part, je trouvais que la lueur projetée sur les sombres panneaux, sur les vieilles tapisseries, sur les plafonds et les tableaux, donnait aux salles un air de tristesse mystérieuse. Cette fois, le maître lui-même daigna nous servir de guide. En dépit de la confession maladroite de son cousin, car en Angleterre, comme dans beaucoup d'autres pays, la pauvreté est un vice impardonnable. Il s'adressait de préférence à lui et je restais un peu en arrière avec Miss Searle. Le propriétaire connaissait à fond sa demeure et tous les trésors qu'elle renfermait. C'était un conteur de premier ordre. Je dois lui rendre cette justice. Il ne l'ignorait pas et profita d'autant plus volontiers de l'occasion de déployer son talent que mon ami semblait l'écouter avec intérêt. De mon côté, je causais avec Miss Searle. « Votre cousin et vous êtes déjà de vieux amis, lui dis-je. » Elle joua un instant avec son éventail, puis répondit en fixant sur moi ses grands yeux naïfs. « Oui, de vieux amis, bien que je ne le connaisse que depuis ce matin. Mon cousin. » Elle répéta le mot d'une voix caressante. « Cela me paraît étrange de lui donner ce nom. » Je suis si fâché qu'il soit sans fortune. Je voudrais le voir heureux, et je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt, ajouta-t-elle avec un petit soupir. Il me dit qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je me demandais si Searle s'était efforcé de gagner le cœur de notre douce châtelaine. En tout cas, avec ou sans intention, il y avait réussi, et vu la tournure que venaient de prendre ses affaires, je n'osais guère m'en réjouir. Je me figure qu'il est en train de cesser d'être un simple fantôme, répliquai-je, et ce serait une bonne action de votre part que de l'aider à se transformer. Ah, moi je ne puis rien. Au contraire, vous pouvez beaucoup. En ce moment, vous ne voyez en lui qu'un être souffrant, digne de votre pitié. Mais témoignez-lui un peu de sympathie. Souffrez qu'il vous témoigne la sienne. Votre voisinage, votre bonté le rendront meilleur et plus fort. Alors, au lieu de le plaindre, vous l'aimerez, parce que c'est vous qui l'aurez guéri. « Je n'oserais pas remplir le rôle d'un médecin, » répliqua-t-elle, d'un ton à la fois tendre et intrigué. Sa douceur presque enfantine ne me laissa d'autre alternative qu'une sincérité brutale. « Avez-vous jamais rempli un rôle quelconque ? » demandai-je. Elle me regarda d'un air étonné, puis rougit, comme si elle eût tout à coup compris le sens de ma question. « Jamais, » dit-elle, « je crois vraiment que j'ai à peine vécu. » « Eh bien, vous commencez à vivre, vous commencez à vous intéresser à autre chose que vos fleurs. Excusez-moi si je suis trop franc, c'est là un défaut américain. Et permettez-moi de vous féliciter. Je suis tenté de m'imaginer que vous vous moquez de moi. Je me sens plutôt troublée qu'heureuse. » Pourquoi troublée ? Elle hésita à répondre, les yeux tournés vers nos deux compagnons. « Vous voulez me donner à entendre, » continuai-je, « que vous avez eu tort d'accueillir votre cousin, d'admettre la parenté ? Dans ce cas, le blâme retombe sur moi. C'est moi qui ai tracé son nom sur ma carte. Il ne songeait pas à se présenter. » « Il se peut que j'aie eu tort à un certain point de vue, mais je ne regrette pas d'avoir agi selon ma première inspiration. Je ne le regretterai jamais. » »« Vous avez raison. En somme, le mal n'est pas grand, si mal il y a. » »« Vous ne connaissez pas mon frère, » répondit-elle en secouant tristement la tête. « Plutôt je le connaîtrai, mieux cela vaudra. C'est donc un homme bien terrible. Auriez-vous peur de lui ?» Elle leva son éventail. « Il me regarde, » murmura-t-elle. Notre hôte, qui nous tournait le dos, avait à la main un miroir vénitien qu'il venait de prendre dans une vitrine remplie d'antiquités. La glace, dont il semblait faire admirer à son compagnon la monture d'argent ciselée, était tenue de telle façon que la personne de Miss Searle s'y reflétait. Je me sentis également surveillé, et je ne voulus pas être surveillé pour rien. « Miss Searle, » dis-je brusquement, « voulez-vous me faire une promesse ?» Elle tressaillit et répliqua d'un air effrayé, « Non, ne me demandez rien, je vous en prie. » On eût dit qu'elle se croyait au bord d'un précipice où elle craignait de tomber. Moi, je ne voyais qu'un obstacle beaucoup moins dangereux. Et je crus lui rendre service en la poussant à le franchir. « Promettez-moi, » répétai-je, « de laisser votre cousin vous parler, s'il le demande, quelque désir contraire que vous puissiez supposer à votre frère. » Elle avait à peu près deviné où je voulais en venir, car une vive rougeur anima son visage. « Vous croyez, » dit-elle en hésitant un peu, « qu'il a quelque chose de particulier à me dire ?»« Oui, quelque chose de très particulier. » Elle me quitta, traversa le salon et disparut sur la terrasse. « Vous arrivez à temps pour écouter une charmante histoire !» s'écria mon ami lorsque je l'eus rejoint. Les deux cousins était arrêté en face du portrait d'une dame du temps de la reine Anne, que le peintre ne paraissait pas avoir flattée et qui, du reste, se trouvait mal éclairée. « Je vous présente Madame Marguerite Searle, » continua mon ami, « une sorte de Béatrice Esmond, qui n'agissait qu'à sa guise et qui, malgré les remontrances de sa famille, épousa un pauvre diable de musicien français. » « Belle Marguerite, mes compliments. » Ma parole d'honneur, elle ressemble à Miss Searle. Mais pardon de vous avoir interrompu, mon cousin. Qu'advint-il de tout cela ? Sir Richard contempla un instant son interlocuteur comme si le brillant hommage rendu à la coupable lui eût paru déplacé. Puis il dit d'un ton assez sec : Il en advint ce qui devait arriver. Il y a un an, j'ai trouvé dans un tas de vieux papiers une lettre de Madame Marguerite à sa sœur aînée. Elle était datée de Paris et fourmillait de fautes d'orthographe. Une vraie lettre de mendiante. Madame venait d'accoucher. Abandonnée par son mari, elle se mourait et maudissait le jour où elle avait quitté l'Angleterre. J'ai tout lieu de supposer qu'elle n'a pas reçu les secours qu'elle réclamait si piteusement. « Voilà ce que c'est que d'épouser un Français !» dit mon compagnon en guise de morale. Notre hôte garda un instant le silence. Heureusement, c'est le premier membre de ma famille qui est agi d'une façon si peu anglaise, dit-il enfin. Et j'espère que ce sera le dernier. Miss Searle, sait-elle cette lamentable histoire ? Demanda mon ami. Miss Searle ne sait rien, répliqua Sir Richard. Elle saura au moins l'histoire de Madame Marguerite, s'écria mon ami. Il faut que je la lui raconte, si vous voulez bien le permettre. » Et, sans attendre la permission, il sortit à son tour sur la terrasse. Sir Richard et moi, nous continuâmes notre promenade à travers les salons. « Votre cousin est un original des plus amusants, » lui dis-je. « Les sœurs de Locksley Park n'ont jamais eu la prétention d'amuser personne. » répliqua-t-il avec raideur. Je le crois sans peine, répondis-je en m'inclinant. Du reste, ce cousin-là est non seulement un original, mais un homme de cœur. Il s'intéresse autant que vous aux annales de votre famille et à votre propriété. Cela se voit, dit le propriétaire en ricanant. Il m'a déclaré que les médecins lui donne peu de temps à vivre, je ne m'en serais pas douté. Je me figure que sa santé est meilleure qu'il ne le croit, et puis l'accueil qu'il a reçu ici lui a relevé le moral. Sir Richard, qui marchait à côté de moi, les sourcils froncés, s'arrêta soudain, fixa sur moi un regard scrutateur et me dit « Je suis un honnête homme. » J'allais assurer que j'en étais bien convaincu, mais il ne me laissa pas le temps d'émettre cette opinion. Il s'abandonna à son accès de franchise avec une vivacité qui annonçait un certain manque d'habitude ou l'envie d'accomplir au plus vite une tâche désagréable. « Je suis un honnête homme, monsieur. Je ne connais pas ce Clément Searle. Je ne m'attendais nullement à le voir. Sa visite m'a... » Il s'arrêta, ne trouvant pas un mot assez fort pour rendre son impression. « M'a abasourdi. Il est très aimable, je n'en doute pas. Vous conviendrez pourtant qu'il a des façons bizarres. Il est mon cousin au 50e degré, soit. Je suis un honnête homme, et il ne pourra pas me reprocher de ne l'avoir pas bien reçu. Lui aussi est un honnête homme, Dieu merci, répliquai-je en souriant. Cet éloge amena une explosion à laquelle je m'attendais presque et qui m'expliquait l'attitude contenue du maître de Locksley Park et le maintien attristé de sa sœur. Alors, pourquoi diable a-t-il cherché à établir en cachette des droits sur ma propriété ? S'écria-t-il. Excusez-moi si je m'exprime avec trop de chaleur, mais je n'ai jamais été aussi révolté que lorsque j'ai appris ce matin de mon avoué les monstrueux procédés de M. Clément Searle. bonté du ciel, pour qui me prend-il ? Et le voilà qui affiche je ne sais quelle passion romanesque pour ma propriété. Puisqu'il a tant d'imagination, qu'il essaie de s'imaginer un dixième de ce que j'éprouve. J'aime ma propriété, c'est mon rêve, ma vie. Croit-il que je vais en céder une partie à un misérable inconnu, à un homme qui n'apporte aucune preuve, aucun titre, à un bohème ? On prétend qu'il y a aux États-Unis assez de terre pour quiconque veut la cultiver, qu'il y retourne. Je restai un instant sans répondre, afin de laisser à sa colère le temps de se dissiper ou d'éclater de nouveau, si bon lui semblait. Voyant qu'il se calmait, je jugeai à propos de riposter une fois pour toutes. « En vérité, monsieur, lui dis-je, vos craintes ont maîtrisé votre bon sens. Ou bien mon ami n'est qu'un aventurier, et dans ce cas vous n'avez rien à redouter. Ou bien ses réclamations, comparativement insignifiantes du reste, sont fondées. » Sir Richard ne me permit pas d'achever ma phrase. Il me saisit par le bras, son teint pâle devint livide, et ses cheveux flamboyants parurent se dresser sur sa tête. « Fondé ? » s'écria-t-il. « Qui l'essaie ?» Nous traversions en ce moment le grand vestibule du manoir pour regagner le salon où nous avions pris le café. À travers la porte d'entrée ouverte, on apercevait le jardin où les rayons de la lune répandaient une lueur argentée. Tandis que nous avancions, je vis Clément Searle arriver lentement sous le porche. Comme il franchissait le seuil, le maître d'hôtel apparut sur les marches d'un escalier situé à notre gauche. Il hésita en nous entendant parler. Mais, à la vue de mon ami, il descendit gravement. Il tenait à la main un petit plateau d'argent et sur le plateau, une lettre. Il s'avançait vers le visiteur qui rentrait nu-tête. Lorsque mon hôte, après avoir fait un mouvement comme pour s'élancer, cria d'une voix stridente.
« Tottenham !»«
Monsieur ?» répliqua le maître d'hôtel qui s'arrêta.
« Restez où vous êtes. Pour qui cette lettre ?»«
Pour Monsieur Searle, Sir Richard, » répondit le domestique, levant les yeux au plafond, afin qu'on ne le soupçonnât pas d'avoir regardé l'adresse.
« Qui vous l'a remise ?»«
Madame Horridge, monsieur. »«
Qui l'a donnée à Madame Horridge ?»
Tottenham, surpris par cet interrogatoire, resta une seconde bouche béante.
« Mon cher hôte, »
dit Searle, qui s'était rapproché et chez qui un pareil oubli des convenances dissipait l'effet qu'avait pu produire le vin de Porto, « il me semble que cela me regarde. » Tout ce qui arrive dans ma demeure me regarde, et il s'y passe des choses assez étranges. » Sir Richard était tellement exaspéré que, chose inouïe chez un Anglais bien élevé, il se compromettait devant un domestique.
« Apportez-moi cela » cria-t-il à Tottenham.
Ce dernier obéit.
« C'est vraiment trop fort !»
s'écria mon ami, qui me regarda d'un air décontenancé. J'étais indigné. Avant que notre hôte eût pu prendre la lettre, je m'en emparais.
« Puisque vous oubliez les égards dus à votre sœur, lui dis-je, je me permettrai de vous les rappeler. »
Et je déchirai le billet en morceaux.
« M'expliquera-t-on ce que tout cela signifie ? » demanda Searle.
Sir Richard allait éclater lorsque sa sœur, attirée sans doute par le bruit de nos voix irritées, se montra à son tour sur l'escalier. Elle s'était déjà retirée pour la nuit, car elle portait un peignoir de cachemire brun sur lequel se détachait une tresse de cheveux blonds qu'elle ne songeait pas à relever. Elle s'empressa de descendre, pâle, et nous interrogeant du regard.
Je compris que notre départ immédiat planait dans l'air, et devinant que Tottenham était un serviteur aussi avisé qu'expéditif, je le priai à voix basse de faire atteler une voiture. « Et que l'on y mette nos effets !» ajoutai-je. Sir Richard se précipita vers sa sœur et saisit le poignet blanc qui sortait d'une des larges manches du peignoir. « Qu'y avait-il dans ce billet ? » s'écria-t-il. Miss Searle contempla tristement les fragments épars sur les dalles, puis tourna les yeux vers son cousin. « L'avez-vous lu ? » demanda-t-elle. « Non, » répliqua Searle, « mais je vous en remercie. » Ils échangèrent un rapide regard où je lus bien des choses. Sir Richard devint cramoisi. « Vous êtes une enfant, » dit-il en repoussant sa sœur. « Venons-nous de passer 4 heures avec un fou ? » s'écria Searle. « Avec un fou ? Qui ne se laissera pas dépouiller, en tout cas !» riposta le maître de la maison, de plus en plus furieux. « Je me suis tu jusqu'à présent, mais me voilà à bout de patience. Croyez-vous donc qu'il n'existe que des niais en dehors de votre beau pays ? Faites-les valoir, vos droits ! Ils ne valent pas ça !» Et il repoussa du pied un des morceaux de papier répandus à terre. Searle écouta cette sortie en ouvrant de grands yeux. Puis il haussa les épaules et se laissa tomber sur un des sièges adossés au mur. Je tirai ma montre et prêtai l'oreille, espérant entendre approcher la voiture. Sir Richard continua. « Ne vous suffisait-il pas de vouloir m'enlever une partie de mon bien ? Il faut encore que vous abusiez de mon hospitalité pour essayer de duper ma sœur ? » L'accusé se cacha le visage entre les mains et poussa une sorte de gémissement. Miss Searle courut vers lui.
« Sotte ! » cria le frère.
« Cher cousin, oubliez ces cruelles paroles, » dit Miss Searle, « et n'emportez d'ici qu'un bon souvenir. Soyez tranquille, je ne songerai qu'à vous. » répliqua-t-il. Les roues d'une voiture résonnèrent au dehors, et au même instant un domestique descendit, chargé de nos valises. Monsieur Tottenham le suivait, avec nos chapeaux et nos pardessus. « Je crois qu'il est bon que vous appreniez le contenu de mon pauvre billet, » dit Miss Searle, avec un effort très touchant, de la part d'une personne à qui tout effort coûtait beaucoup.
« Taisez-vous !» cria Sir Richard. « Vous vous expliquerez plus tard avec moi.
Laissez-moi imaginer le contenu de votre lettre, » répondit le cousin, sans prêter la moindre attention à cette interruption. « On ne l'a que trop imaginé, » répliqua Miss Searle. « C'était un simple avertissement. Je devinais presque ce qui allait arriver. » Mon compagnon prit son chapeau. « Les peines et les plaisirs de ce jour, » dit-il à Sir Richard, « resteront également gravés dans ma mémoire. Mais je ne vous en veux pas. Vous connaître, » reprit-il en tendant la main à sa cousine, « a été une des grandes joies de ma vie. »
« Et toutes les peines seront pour moi, » dit notre hôte en ricanant.
« Je crains bien que non. » « À en juger par ce que j'endure, » répliqua Searle. Je lui pris le bras et nous franchîmes le seuil de cette demeure inhospitalière. Tandis que je m'éloignais, j'entendis Miss Searle éclater en sanglots. « Quel rêve !» murmura Searle, tandis que la voiture nous emportait vers la petite auberge que nous avions quittée le matin, nous attendant si peu à rencontrer un ennemi ou une amie. Quel rêve, quel réveil, quelle longue journée, quelle scène hideuse. Pauvre femme. avant qu'il se retirât pour la nuit, je voulus apprendre si le billet de Miss Searle se rattachait à quelque chose qui s'était passé entre elle et lui à la suite de ce malencontreux dîner. « Cela m'étonnerait, dit-il, car elle est la franchise personnifiée. Je l'ai rencontrée sur la terrasse où elle se promenait d'un air inquiet. Pour ma part, j'étais très agité. J'ignore pourquoi. Je ne me rappelle pas comment je l'ai abordée. Je lui ai demandé, je crois, si elle connaissait l'histoire de cette Marguerite qui, en dépit de sa famille, avait épousé un pauvre diable étranger. Elle a paru effrayée et troublée. « Je ne sais rien, » répondit-elle en se servant de l'expression employée par son frère. Je me sentais un peu gris. Est-ce que j'avais trop bu ? Gris ou non, mes paroles venaient tout droit du cœur. Sous les pâles rayons de la lune, je la trouvais plus jeune, plus belle, plus gracieuse. J'ai été éloquent sans effort. Je lui ai pris la main. Elle l'a appelée Marguerite. Elle me dit que c'était impossible, qu'elle n'avait jamais résisté à son frère. Enfin, je lui parlais de mes droits. « Ils existent donc ? » demanda-t-elle. « Ils sont assez réels pour que votre frère ne soit qu'à moitié rassuré. Mais j'y renonce. Soyez généreuse comme celle dont vous portez doublement le nom. C'est vous seule que j'aime, vous seule que je veux. » Un moment, son visage rayonna. « Et si je vous épousais, dit-elle, cela réparerait tout ? Oh, si vous m'épousiez, mes peines disparaîtraient comme une goutte d'eau dans l'océan. Je ne me souviendrai plus d'avoir souffert. Moi, je souffrirais de ne pouvoir vous consoler, murmura-t-elle. Notre mariage, n'insistez pas ce soir. Laissez-moi le temps de réfléchir. Et elle s'éloigna en se cachant le visage dans les mains. Après avoir fait un tour ou deux sur la terrasse, je suis rentré. Voilà toute la sorcellerie que l'on puisse me reprocher. Le pauvre garçon était à la fois si excité et si épuisé par les émotions de la journée que je me figurais qu'il ne dormirait guère. Comme je me sentais moi-même peu disposé au sommeil, je fis jeter du bois dans ma cheminée et je me mis à écrire. J'entendis la grande horloge de la salle à manger, située au-dessous de ma chambre, sonner minuit, une heure et demie. Tandis que la vibration du dernier coup se mourait dans l'air, la porte de la chambre de Searle, qui communiquait avec la mienne, s'ouvrit tout à coup et je vis mon compagnon debout sur le seuil, aussi pâle qu'un mort, se détachant comme une ombre sur les ténèbres de la salle voisine. « Contemplez-moi, dit-il à voix basse, félicitez-moi, j'ai vu un fantôme. Et que me chantez-vous là ? Rien que la vérité, un vrai fantôme. Il me semble que je parle assez clairement. » J'avoue que j'éprouvais ce que les physiciens nomment un choc en retour. Je m'imaginerais toujours avoir moi-même vu un fantôme ce soir-là. Mon premier mouvement, aujourd'hui encore je ne puis sourire en y songeant, fut de courir à la porte et de la fermer. Puis je revins à Searle et le forçai à s'asseoir près du feu. Ses mains étaient moites et tremblaient, son regard devenait fixe. Je ne lui adressai aucune question. Je craignais qu'il n'eût le délire et j'attendis avec inquiétude qu'il parlât. « Je ne suis pas effrayé, dit-il enfin, mais je suis très agité. Comme je tremble. Il me semble que je vais me fondre ainsi qu'une vague entraînée par la mer. Je savais bien que je le verrais, le fameux fantôme. Je l'ai vu plus distinctement que je ne vous vois. Une femme en manteau bleu, un capuchon noir sur la tête, les mains fourrées dans un petit manchon, jeune, horriblement jolie dans sa pâleur et son air maladif. À son regard doux et triste, le regard des femmes qui ont beaucoup aimé et souffert, m'adressait des reproches. Dieu sait, si j'ai jamais trompé personne. Elle me prenait pour mon aîné, pour l'autre Clément. Épousez-moi, me dit-elle en se jetant à mes pieds, tenez vos promesses. Épouser un fantôme. J'ai sauté à bas de mon lit, elle a disparu aussitôt. Et me voici. Je ne tentais pas de lui expliquer qu'il venait de rêver, tant son agitation me gagnait. En somme, des deux fantômes, le mien était le plus intéressant. Il n'avait aperçu qu'un spectre illusoire. Je voyais en face de moi un spectre humain qui en ce moment ne vivait plus de la vie terrestre. Bientôt, je retrouvais assez de sang-froid pour songer à la santé de mon ami. Il fut tacitement convenu qu'il ne rentrerait pas dans sa chambre. Je l'installai au coin du feu et mes couvertures le mirent à l'abri du froid. Je n'avais plus la moindre envie de travailler. Quant à dormir, j'y songeais encore moins. Je ranimai donc le feu et je m'étendis dans un fauteuil de l'autre côté de la cheminée. Silencieux, emmitouflé jusqu'au menton dans ses couvertures, Searle se tenait droit et bien éveillé, dans l'attitude d'un homme à qui le hasard vient de décerner une dignité nouvelle. Ses yeux demeuraient presque constamment à demi fermés. Mais, à d'assez longs intervalles, il les ouvrait tout grands et contemplait longuement les flammes du foyer dont l'éclat ne semblait pas le blesser. On eût dit qu'il y revoyait l'image de la dame au capuchon noir. Avec son visage pâle et amaigri, ses draperies grises, les rides que dessinaient les lueurs vacillantes du feu, avec ses longues moustaches et sa gravité imposante, il me rappelait Don Quichotte, soigné par le duc et la duchesse. Vers l'aube, vaincu par la fatigue, je sommeillais pendant une demi-heure. Lorsque je me réveillais, les oiseaux du jardin commençaient à saluer l'aurore. Searle, qui n'avait sans doute pas suivi mon bon exemple, conservait une attitude digne d'un empereur romain. Les yeux qu'il fixait sur moi étaient si brillants que cette longue insomnie m'inquiéta. « Comment vous sentez-vous ? » lui demandai-je. Il continua à me regarder durant une minute ou deux sans répliquer. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix lente et rêveuse, tout en drapant ses couvertures autour de lui. « Lorsque nous nous sommes rencontrés à Hampton Court, me dit-il, vous avez voulu savoir ce que j'étais. Je ne suis rien, vous répondis-je avec sincérité. Mais je ne me rendais pas justice. Je suis quelque chose. Je suis un personnage. Je suis un homme hanté. » Je commençais à craindre qu'il eût complètement perdu la raison. Cependant, il était d'une nature si douce et si patiente qu'il n'y avait guère à redouter aucun acte de violence de sa part. Comme le jour se montrait, j'en profitais pour mettre un terme à notre grotesque veillée et j'engageais mon ami à aller s'habiller. Il paraissait si faible que je lui donnais la main pour l'aider à se lever, et, une fois debout, il eut à peine la force de se tenir sur ses jambes. « Allons, » dit-il, « j'ai vu un fantôme. C'est là un présage de ma fin prochaine, et je ne vivrai pas assez longtemps pour en voir un second. Je serai bientôt moi-même un habitant de l'autre monde. » En attendant, il est inutile de se laisser mourir de faim. Nous allons déjeuner. Voici mon déjeuner, répliqua Searle, qui tira de son sac de voyage un petit flacon de morphine dont il avala une dose. « Maintenant, je vais dormir. Soyez tranquille. Je n'en ai pas pris plus qu'il ne faut. » À midi, je le trouvais de nouveau sur pied, habillé, rasé et beaucoup plus calme. « Pauvre ami, dit-il, vous avez accepté une lourde corvée, mais elle touche presque à sa fin. Je ne savais quel moyen employer pour dissiper ses idées noires. Par bonheur, il exprima quelques instants après le désir de voir Oxford. Je m'empressai de saisir la balle au bond, et une demi-heure après, nous étions en route pour la vieille université.